La grande table des idées avec notre grand invité depuis midi, l'écrivain enquêteur Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra sur la mafia napolitaine, mais aussi de deux récits recueils sombres, Le contraire de la mort et La beauté de l'enfer. Il est à Paris actuellement à l'occasion de la parution de son premier roman Piranha chez Gallimard. Criminalité organisée, corruption et vie politique, il travaille depuis plus de 10 ans la même matière par le documentaire ou la fiction. Depuis quelques mois, l'écrivain a par ailleurs monté le ton contre la politique migratoire porté par le chef de la Ligue italienne, accusé d'utiliser les immigrés pour transformer en soutien électoral le racisme le plus grossier. Ce sont les mots de Roberto Saviano. Avant l'été, la critique a muté en échange musclé et frontal avec le nouveau ministre de l'Intérieur italien. Matteo Salvini a menacé de lui retirer son escorte. Saviano a répliqué « Tu crois que je vais avoir peur de toi, bouffon ?» Il ministro della Malavita. On va en reparler ensemble durant cette demi-heure. Italie, le crépuscule républicain. Pour en discuter, nous a rejoint Jacques de Saint-Victor, historien du droit, professeur à Paris 13. Il dirige le cycle sur la criminalité organisée au CNAM. Chroniqueur littéraire au Figaro, il est par ailleurs l'auteur avec Thomas Brantôme d'une histoire de la République en France qui vient de paraître chez Economica et précédemment de Mafia, l'industrie de la peur aux éditions Rocher et d'un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique. Un essai qui était paru chez Gallimard. Bonjour à vous, Jacques de Saint-Victor.
Bonjour.
Et merci à vous, Roberto Saviano, d'être resté avec nous.
Bonjour.
C'est un peu le choc des titans, le choc des deux républiques qui va se jouer aujourd'hui, la République italienne contre la République française. Jacques de Saint-Victor, la République française fête aujourd'hui ses 60 ans. Vue d'ici, comment va-t-elle ?
Paradoxalement, elle est en situation de crise, comme vous avez pu le constater, mais peut-être parce que elle a trop bien réussi. Au fond, la Ve République, elle a cherché, le général de Gaulle en 1958, il a cherché deux choses, à restaurer l'État et à rationaliser la démocratie. Et dans ces deux domaines, on a trop bien réussi d'une certaine façon. L'État est tellement restauré qu'au fond, aujourd'hui, il est trop réservé, enfin il est maintenu dans une petite élite, une petite caste de très hauts fonctionnaires très puissants, et ça crée des problèmes que l'on voit de plus en plus. Et puis la rationalisation de la démocratie s'est faite au détriment du Parlement. On a aujourd'hui le sentiment qu'il ne sert absolument plus à rien, et donc il y a chez les Français l'idée que ils ne sont plus représentés. Et cette crise aujourd'hui, elle est très présente, puisque vous avez vu récemment, il y a un sondage qui a montré que plus de la moitié des Français n'étaient plus tellement en accord avec les institutions de la Ve République. En 1958, ils étaient au contraire à plus de 80% favorables à ces institutions, parce que ils se souvenaient de ce qu'il y avait eu auparavant, ce fameux parlementarisme absolu qui rendait l'État totalement impuissant.
Mais rien ne dit s'ils auraient vraiment envie de revenir aux institutions de la 3e ou de la 4e, ni même quel 6e ils désiraient s'ils mettaient fin à la 5e République. Roberto Saviano, la France est aujourd'hui le pays le plus détesté en ce moment en Italie. Voilà ce que vous avez dit, en tout cas dans l'esprit de ses dirigeants. On va peut-être réussir à voir ensemble ce qui nous oppose, mais vu d'Italie, vu de vous, comment se porte-t-elle la République française ? Comment vous regardez notre République ?
La propaganda di Salvini.
C'est la propagande de Salvini.
Quella di considerare la Francia.
C'est-à-dire de.
Il paese dell'ipocrisia.
Considérer que la France est le pays des hypocrites.
Qui caccia gli immigrati.
C'est-à-dire le pays qui chasse les immigrés et qui soutient que les Italiens sont trop autoritaires. Et c'est le pays qui vole le pétrole de la Libye et qui en même temps attaque l'Italie en soutenant que nous faisons des accords avec les trafiquants d'êtres humains de la Libye, libyens.
Donc, la démocratie française a des contradictions.
C'est vrai que la démocratie française montre des contradictions.
Et
que ce gouvernement populiste italien est en train d'exploiter à son propre avantage. Comme auparavant, ils ont fait avec les Allemands. C'est-à-dire que l'Allemagne aurait été la responsable des critères, de certains paramètres qui empêchaient l'Italie de se développer.
Certamente, come dire, quello che sta mancando
bien
ora.
Évidemment, ce qui manque aujourd'hui, c'est une alliance entre les intellectuels, entre la société civile italienne et française, pour essayer de raconter pourquoi tout cela se produit.
Et
donc nous voyons ce sentiment anti-français qui se développe, et ce sentiment est utile pour dire que les Français peuvent tout faire en Europe, alors que nous devons payer ces intérêts insoutenables de notre propre dette.
Vous trouvez nos institutions, voire nos responsables politiques, vous, Roberto Saviano, plus désirables ? On est dans la traduction.
Per certi versi, les modalités con cui
communicano. On peut dire que la manière, les modalités de communication des politiciens français
peuvent paraître
plus démocratiques que de la communication italienne. Mais en même temps, je suis convaincu qu'au sujet des frontières, par exemple, il y a des énormes problèmes. À Ventimiglia, par exemple, la gestion des migrants était excessive de la part des Français. Le blocage, le blocus de bateaux qui est le même de la part de l'Italie ou de la France.
Et
de plus, je trouve qu'il y a toujours eu une erreur en France. Bien sûr, pas partout en France, mais je trouve qu'on n'a jamais parlé de la criminalité organisée française. Les journalistes l'ont fait, les experts, mais jamais les politiciens.
Et
cela n'a pas permis de parler d'une dynamique qui est fondamentale. Par exemple, toute la drogue qui est vendue en France par les Maghrébins, les gens du Moyen-Orient, bien sûr, mais ceux qui le recyclent, ce sont les cartels français, c'est-à-dire les Corses, les
Français. Et
de plus, l'Europe et donc la France et la politique française a permis qu'ils existent des caisses qui pouvaient récolter l'argent en dehors de la France, comme dans le Luxembourg, par exemple. La même chose, c'est ce que l'Allemagne a fait avec le Liechtenstein, l'Espagne avec les Andorre. Londres est devenue la plus grande plateforme d'argent sale de la planète. Et les personnes, donc, ont eu ce sentiment, cette sensation qu'ils payaient des impôts parce qu'ils étaient des imbéciles.
Alors, sur cette question-là, Jacques de Saint-Victor, il est là le pouvoir invisible de ces mafias que vous décriviez dans votre ouvrage de 2012, en étudiant ce rapport aussi entre les mafias et la société, nos sociétés démocratiques.
Absolument, non, ça c'est un des grands défis de la société démocratique contemporaine, et là je suis assez d'accord avec ce que dit Roberto Saviano, il y a un défi français dans la mesure où nous connaissons beaucoup moins la question et la structure du crime organisé, du haut crime organisé dans notre pays. Je dirais qu'à la différence de l'Italie, et c'est peut-être ce qui fait et qui explique cette situation, c'est que le structure du crime organisé français, d'abord, n'a pas la même histoire, et puis surtout, il est toujours intelligemment resté à un niveau de basse intensité, contrairement à ce qui s'est passé en Italie dans les années 80-90, où cette explosion du bris mafieux a finalement permis à la société italienne de prendre conscience à quel point elle était gangrénée, par le crime organisé. En France, en dehors de ces quelques dernières années, de ce qui s'est passé par exemple en Corse, on est toujours resté dans un niveau tout de même beaucoup plus diffus, beaucoup plus discret, d'autant plus que Il a raison, une grande partie du crime organisé s'est organisé en France, en dehors du territoire français, et notamment dans nos anciennes colonies. Ce qui a permis de ne pas exposer, comme c'est le cas aujourd'hui en Italie, la question du haut crime organisé sur la place publique et notamment dans le débat politique.
Alors effectivement, il y a la question juridique, la question aussi économique de ces mafias, mais la question aujourd'hui, elle est plutôt politique. Quand vous dites, Roberto Saviano, comparer le ministre de l'Intérieur actuel, Matteo Salvini, à un ministre de la Pègre, là, vous posez directement la question des liens de ces mafias avec le pouvoir politique, la question du qui gouverne aujourd'hui.
Ho chiamato Salvini in italiano ministro della malavita.
Appelé Salvini le ministro della pègre.
Era un'espressione di un filosofo italiano.
Il s'agissait d'une expression utilisée par un philosophe italien.
Gaetano
Salvemini. Gaetano Salvemini. Qui nomme de cette manière un vieux ministre Giolitti. Nous sommes au début des années du XXe siècle.
Lui lo chiama così perché tutto il sistema che questo ministro utilizza.
Il l'appelle de cette manière parce que le système utilisé par ce ministre, afin d'obtenir un certain consensus,
si fonda sulla manipolazione
est basé
del disagio,
sur la manipulation du malaise.
Et sulla sull'utilizzo di intere sacche
e il utilizzo
di consenso politico,
ce consensus politique
sotto pressione delle organizzazioni criminali,
qui est mis sous pression par les organisations criminelles.
E faccio un esempio,
je vous donne un exemple, les rapports entre l'Andrangheta et la Ligue
sono stati molteplici,
ont été très nombreux,
un elemento su tutti.
Un élément là, qui est
la
le plus
Lega
évident.
Ha sottratto,
la Ligue
secondo sentenza a, definitiva,
et ça a été déclaré de manière
49
définitive,
di euro
a soustrait,
allo
a
Stato italiano,
dérobé des 49 millions d'euros l'État italien.
Et questi soldi sono stati
cet
riciclati tramite
a été recyclé grâce à un homme de l'Andrangheta.
Anche qua, sentenze definitive.
Et cela aussi a été juridiquement déclaré établi.
Salvini, qui est, la capo
Salvini,
de la Lega,
qui est le chef de la Ligue, n'a jamais répondu sur cette question.
Non riguardava me,
il
passato
a tout simplement dit que cela appartient au passé et qui donc lui n'est pas concerné.
Lui, però, all'epoca era un dirigente.
Mais à l'époque,
Lega,
lui faisait partie de la Ligue. Il était un de ses dirigeants.
Quindi l'espressione che io uso
donc,
è un modo per paragonare.
Quand moi je dis ministre de la Pègre, cela veut dire que en Italie, depuis toujours, le vote
consenso,
est basé sur la haine, le chantage et la propagande.
Voilà, c'est pas que de la surenchère verbale, ces mots que vous avez donc employés, Roberto Saviano, mais aussi une manière de décrire un mode de gouvernance par la manipulation. Jacques de Saint-Victor, tout à l'heure, Roberto Saviano disait que, vu d'Italie, le système français semblait plus démocratique. Est-ce que pour vous, à vos yeux, un des deux systèmes l'est plus démocratique? Et rappelons donc qu'aujourd'hui, la Constitution française de 58 a donc 60 ans, et avec elle la République, et que la Constitution italienne, elle, a 70 ans. La monarchie a laissé place à la République le 2 juin 1946, après la chute du fascisme à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La Constitution était entrée en vigueur 2 ans plus tard.
Oui, c'est un peu paradoxal ce que dit Saviano, parce que les Italiens considèrent que leur Constitution est la plus démocratique d'Europe. Parce que de fait, la Constitution italienne, si on la compare à la Constitution française, elle est une Constitution beaucoup plus démocratique au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que nous avons créé avec le général de Gaulle en 1958 une constitution qui insiste beaucoup plus sur le pouvoir d'État afin de donner des possibilités supérieures de gouverner, si vous voulez, d'être plus efficace dans les modes de gouvernement. Là où, au contraire, la démocratie italienne, la constitution de 1948, elle est une constitution qui donne beaucoup plus de pouvoir au Parlement pour donner des possibilités aux diverses sensibilités du pays de s'exprimer. Donc, de ce point de vue-là, si on prend le critère de la démocratie aujourd'hui, on pourrait dire que la démocratie italienne, en tout cas la constitution italienne, est plus démocratique. démocratique. Ce que je pense vise Roberto Saviano, c'est après les pratiques de gouvernement et les pratiques de pouvoir. Et là, là, c'est très compliqué. On pourrait renvoyer dos à dos nos deux démocraties.
Alors, est-ce qu'il faut choisir d'ailleurs entre efficacité et démocratie ?
C'est le débat.
C'est le débat. Les institutions mises en place par le général de Gaulle il y a 60 ans étaient censées nous protéger d'une instabilité institutionnelle chronique, comme on peut le voir, ou c'est en tout cas ce qu'on reproche aux institutions italiennes. Je vous propose d'écouter le général de Gaulle. C'est aussi un jour anniversaire pour lui. Aujourd'hui, il était en train de prendre acte de la naissance de la 5e.
C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons.
Et le général de Gaulle poursuivait en exposant que les principes de la nouvelle Constitution déterminent
qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions.
Là, ce jour-là, on pensait en tout cas avoir trouvé le bon système, hein, Jacques de Saint-Victor. Et encore, c'est vrai que nos institutions sont plus stables, mais quand même, qu'est-ce que nous dit la démission de Gérard Collomb des fragilités actuelles de la Ve République ?
J'ai le sentiment que ça, en effet, c'est un événement très important, mais qui ne parle pas des fragilités de notre système gouvernemental, enfin de notre système institutionnel, c'est plutôt les pratiques politiques. Et ça traduit aujourd'hui une idée d'un espace vide, un pouvoir qui a du mal à retomber sur ses pieds, mais c'est lié probablement beaucoup plus au fait que Emmanuel Macron est l'émanation une émanation non partisane, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a créé son propre parti en très peu de temps, qui a finalement assez peu de relais. Et ce qui était au contraire auparavant considéré comme un grand avantage se retourne aujourd'hui contre lui. Donc oui, il y a une crise, mais c'est pas une crise institutionnelle, si vous voulez.
Parce que vous savez, nous, Roberto Saviano, on a perdu notre ministre de l'Intérieur qui a choisi de démissionner. Le vôtre est bien en place, Matteo Salvini. Vous auriez peut-être espéré qu'il se passe une situation similaire en Italie. Et c'est vrai que beaucoup ont dit, finalement, l'autorité de l'État est peut-être un tout petit peu entamée, mais l'État continue de fonctionner malgré cette démission. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre Édouard Philippe. Je vous propose de repartir en Italie, cette fois avec la réforme qu'avait voulu engager Matteo Renzi, alors chef du gouvernement italien. On était en décembre 2016. Il avait lancé un référendum sur la réforme de la Constitution, référendum qui a été rejeté.
Dernier meeting pour Matteo Renzi avant le grand référendum constitutionnel de dimanche, sur lequel il joue peut-être sa carrière politique. Le chef du gouvernement italien va proposer au peuple de simplifier la vie politique dans un pays où les changements intempestifs de gouvernement et l'instabilité chronique sont légion depuis plusieurs années. La réforme prévoit une réduction drastique des pouvoirs du Sénat, qui ne votera plus la confiance au gouvernement et la majeure partie des lois, une limitation du pouvoir des régions et la suppression des départements. S'il a fait machine arrière depuis, Matteo Renzi affirmait il y a un an qu'il abandonnerait la politique en cas de rejet du référendum.
En fait, le non l'a emporté de manière écrasante, hein, près de 60% avec un taux de participation à 70%, Roberto Saviano. À ce moment-là, quand il a été question de changer la constitution italienne pour remettre peut-être presque plus de verticalité, c'est-à-dire aller vers un système bicaméral à la française, les Italiens ont refusé. Finalement, ce système leur convient bien, vous convient bien ?
Non, le référendum est stato un référendum sur Renzi.
Le référendum a été un référendum sur Renzi. Personne ne parlait plus des vraies questions. Il n'y avait plus qu'une petite minorité qui en parlait. Et ce référendum, comme nous avons vu après avec le Brexit en Angleterre, c'était un référendum sur le gouvernement. Et la participation a été tellement forte parce qu'il fallait donner un message au gouvernement. En particulier le Sud. Le Sud d'Italie a voté en masse contre Renzi. Et la plus grande erreur des démocraties, des social-démocraties, c'est de croire qu'une bonne administration aurait pu suffire. En Italie, nous n'avons même pas eu une bonne administration, mais en tout cas, nous n'avons pas eu de direction, nous n'avons pas eu de perspectives, et il y avait un appauvrissement continu, et nous n'avions aucun projet, aucune stratégie. Et donc, lorsque une force politique est arrivée, qui pouvait, en parlant d'ennemis, c'est-à-dire les migrants. Et en soutenant que toutes les élites étaient les ennemis, eh bien, cette force politique a pu traduire toute la rage, toute la frustration du pays, qui a vu ses espoirs déchus.
Oui, la démission de Matteo Renzi a entraîné des nouvelles élections, a vu l'arrivée ensuite au pouvoir de la coalition 5 étoiles et de la Ligue. Ce mouvement 5 étoiles qui a surfé sur une autre forme presque institutionnelle, sur cette idée de démocratie directe, sans médiation parlementaire, ce directisme à l'italienne, selon le mot du politologue Giovanni Sartori, qui se caractérise par une aspiration à une souveraineté populaire sans intermédiaires. Mmh. Ça a été le revers, le contre-coup, et ce sont eux aussi qui sont arrivés depuis au pouvoir. Avec quel regard, du coup, sur le système et les institutions? Est-ce qu'ils traduisent vraiment dans les actes ce message de démocratie directe qu'ils portent?
Non, on est encore vraiment au début, mais ce qui est tout à fait juste, c'est que le référendum de 2016 a été un rejet non seulement de Renzi, la personnalité de Renzi, mais ce que dit aussi Roberto Saviano, c'est au fond le rejet d'une politique particulière, et cette politique particulière, c'est ce qu'on a appelé le social-libéralisme. Et vous avez noté, en 2016, le référendum est de 2016, il y a eu ce même rejet un peu partout. Parce que, au fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déplacement. Traditionnellement, les programmes de gauche, c'était des programmes dits sociaux-démocrates. Et on est passé avec Tony Blair, avec Renzi, je dirais aussi aujourd'hui avec notre président, de social-démocrate à social-libéral. Et au fond, c'est un peu ce que ont rejeté les électeurs, c'est cette ruse, ce tour de passe-passe. Et une partie de ces électeurs qui ont rejeté en effet ce tour de passe-passe social-libéral, eh bien, ils se sont reconnus dans un certain discours directiste, pour reprendre en effet l'expression de Sartori, c'est-à-dire l'idée que on n'est plus représenté et que après tout, puisqu'aujourd'hui les moyens techniques comme par exemple Internet le permettent, eh bien pourquoi pas s'exprimer directement. Après tout, un des grands slogans au départ des 5 étoiles, c'était « Uno vale uno ». Chacun au fond a le droit et a égalité avec les autres. Il n'y a pas de nécessité d'avoir des représentants. Et ça, c'est un mouvement à la fois en apparence démocratique, mais extrêmement dangereux au final pour la démocratie elle-même.
Mais c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Roberto Saviano, Silvio Berlusconi déjà avait lancé, imaginé cette forme de directisme, c'est-à-dire de représentation et d'expression par Internet.
Ah, Berlusconi è stato il padre del populismo italiano.
Le père du populisme italien. Mais
dentro una dinamica democratica.
À l'intérieur d'une dynamique démocratique qui manipulait, qu'il a essayé de frapper, d'attaquer, mais il a toujours agi au sein d'une dynamique démocratique. Alors que ce gouvernement, pour la première fois, est en train de casser ce langage démocratique.
Et
ce que Berlusconi faisait avec ses journaux, les insultes, la boue qui renversait, eh bien, ce gouvernement actuellement est en train de le faire de manière politique. Il n'a plus besoin d'utiliser d'intermédiaires comme la presse, par exemple.
Et donc, la dériva,
nous assistons à cette dérive autoritaire en Italie. Et
se qualcuno parla in nome del popolo,
in Italie, nous croyons que si quelqu'un parle au nom du peuple, il n'a pas besoin d'être légitimé par d'autres représentants. Il ne doit respecter aucune autre règle. Et c'est ainsi que tous les régimes sur Terre ont commencé, ont démarré et...
Come sto dicendo spesso, la Francia deve guardare
à mon avis, je pense que la France doit regarder l'Italie en ce moment, parce qu'en quelque sorte, on pourrait y voir son propre futur.
Jacques de Saint-Victor.
Oui, l'Italie a toujours été un peu considérée depuis le XXe siècle comme un laboratoire politique. C'est pour ça qu'en effet, les expériences italiennes sont toujours très passionnantes à étudier.
Politique,
beaucoup plus...
économique et sociale. Oui, la question, c'est de savoir si aujourd'hui l'Italie est le laboratoire européen de ce populisme.
Alors, probablement, je serais un peu plus réservé que Roberto Saviano dans la mesure où, d'abord, l'Italie n'est pas pionnière dans ce domaine de ce qu'on appelle la démocratie illibérale, puisque ce sont les pays de l'Est qui, en Europe, ont commencé ce mouvement. Je crois qu'une des grandes ruses et de grandes finesses politiques, si on peut dire, de Roberto Salvini, c'est d'avoir réussi...
Matteo Salvini.
C'est d'avoir réussi à se situer au gouvernement tout en se présentant encore comme un éternel opposant. Et cette ruse-là explique une grande partie du consensus qu'il a aujourd'hui, puisque avec la coalition, ils sont à plus de 70% d'opinion favorable dans les sondages. Et ça, je crois que c'est une des grandes, c'est un élément très important à examiner parce que, au fond, aujourd'hui, se structure un discours qui consiste à dire il y a d'un côté le bas, la piazza, comme on dit en Italie, et de l'autre le palazzo. Et le gouvernement populiste a réussi à faire croire qu'il est dans la piazza contre le palazzo. Le palazzo, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Italie les pouvoirs forts, i poteri forti, et au fond l'Europe qui, il faut reconnaître, se comporte comme le souhaite Salvini, c'est-à-dire en menaçant, en disant c'est pas bien, votre budget il va falloir le revoir, etc. Ça, ce sont des alliés au fond objectif de cette coalition populiste italienne.
Il y a une histoire de style, d'incarnation importante entre nos deux républiques, où on le voit aujourd'hui encore, de différence aussi de structure de nos institutions politiques italiennes, comme italiennes et françaises, comme on vient de le raconter, donc de culture, peut-être simplement des institutions, de la manière dont le pouvoir traite avec ces institutions.
C'est pas la même histoire. L'Italie, quand même, sort au XXe siècle d'une expérience tragique, qui est l'expérience du fascisme. Donc pendant de longues années, elle n'a pas pu avoir les mêmes institutions que nous, sous la Ve République, parce que ça aurait été considéré comme des institutions beaucoup trop puissantes, donnant beaucoup trop de pouvoir à l'exécutif. Mais de fait, cette impuissance politique des dernières années en Italie a probablement aussi contribué au succès de cette coalition populiste.
Et en même temps, cette question des migrants, l'Aquarius notamment, comment elle interroge pour vous nos démocraties aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle catalyse? Qu'est-ce qu'elle cristallise? Roberto Saviano.
Quello che ascolto negli ultimi mesi.
Ce que j'entends dans le dernier mois.
Sintetizzabile in questo modo.
Peut être exprimé de cette manière, en synthèse.
Apriamo troppo le frontiere.
Si nous ouvrons trop les frontières, toute l'Europe va devenir d'extrême droite.
Mais
je ne pense pas qu'il ne faut ouvrir toutes les frontières, ne que nous allons devenir d'extrême droite. Je pense que
come si sta comportando l'Europa,
la maniera dans laquelle l'Europe agit a déjà fait mourir les valeurs européennes.
Respingere come si sta facendo.
Et le fait de rejeter de la manière que nous le faisons a déjà abîmé les valeurs fondamentales de notre Europe. L'Europe n'a pas été constituée comme une forteresse.
Detto questo, l'énorme problème des flux migranti.
Cela dit, les grands problèmes des flux migratoires
doivent être affrontés
par toute l'Europe
con una direzione unica,
en donnant une direction unique.
Che non può non andare verso la
et cette direction ne peut pas aller vers la possibilité de donner des visas de travail à partir des États d'où les migrants arrivent. Cette possibilité pourrait vraiment réduire beaucoup les départs des migrants. Je vais vous donner un petit détail.
En Italie,
il y a eu une grande lutte contre les ONG. Les ONG qui sauvaient les vies dans la Méditerranée.
Si diceva che l'attuale vice primo ministro Luigi Di Maio italiano le ha chiamate
le premier ministre adjoint actuel les appelait les taxis de la mer, ces ONG.
Sono ambulanze.
Alors que ce sont des ambulances de la mer. La politique qui est en train de faire, de développer l'Europe, on peut la décrire de cette manière. Il faut enlever les ambulances de manière que personne ne va plus mourir dans les accidents. Il n'y aura plus de morts. Et cela est une folie.
On peut aussi dire sur ce point-là, et je vous laisse terminer, Jacques de Saint-Victor, sur cette question, que sur cette question des migrants, la France et l'Italie, avec des tons complètement différents, mais sur l'Aquarius, ont eu des réponses similaires, c'est-à-dire de refuser l'entrée ou l'arrivée, l'accostage de l'Aquarius sur leur territoire, et que Matteo Salvini n'a pas eu tort quand il disait que via Lampedusa, l'Italie a dû porter beaucoup de cette charge et de cette question, et que les autres pays n'ont pas répondu aux accords de Dublin, n'ont pas pris leur part aussi de cette responsabilité-là.
Bah, sur ce point précis, évidemment, il a raison. Et une des raisons qui explique ces politiques, au-delà des éléments d'options politiques divergentes entre nos deux pays, c'est le fait qu'il y a un élément nouveau, la crise des migrants surgit après la crise des subprimes et la grande fragilisation des classes moyennes. Et c'est aussi ça, c'est ce télescopage entre d'un côté un problème humanitaire, mais de l'autre une crise sociale d'envergure, qui rend les politiques vis-à-vis de cette question humanitaire extrêmement complexes. Parce qu'on ne peut pas non plus faire comme si rien ne se passait en Europe et que le continent était aussi riche qu'il ne l'a été il y a encore quelques années. Et c'est ça ce défi pour les prochaines années.
Voilà, et pour les prochaines élections, échéance électorale pour nous tous dans un an. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Jacques de Saint-Victor. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous avez coécrit, Histoire de la République en France. Il vient de paraître chez Economica. Un grand merci à vous, Roberto Saviano, d'avoir passé 7h30 avec nous autour de la littérature et de la politique française et italienne. Votre premier roman, Piranha, vient de paraître chez Gallimard. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Marianne Escovic et à Laura Dutèche pour La Grande Table des Idées, à Oriane Delacroix et à Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, avec Jordan Joseph et Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, Anne Despelchin, avec YouTube Diego Aclopez. Très bel après-midi à tous sur France Culture.